Bonjour à tous, lu dans le Canard enchaîné. La retransmission des vœux de Sarko aura coûté au total 72 000 euros à la chaîne, soit 7 fois plus que sous Chirac. Un gros surcoût explicable, notamment par les multiples effets d'éclairage sur le parc de l'Élysée par exemple, qu'a souhaité le président, la mobilisation d'une équipe technique plus importante, etc., etc. Ceci rentre bien sûr dans le plan des restrictions gouvernementales. Eh bien moi, Monsieur Louis Sarko, je ne vous souhaite pas une bonne année, mais pas une bonne année du tout. Au revoir à tous.
Bonjour, Gérard, papier collant en colère, le gréviste de la faim du ministère de la crise du logement. Nous en sommes à commencer notre cinquième jour et pour l'instant tout va bien. Mais je veux dire que nous sommes un peu sidérés quand même. Bon, alors nous avons un énorme succès, c'est vrai, au niveau de la presse. Et je dois dire, Daniel, je te remercie d'être venu nous soutenir hier, pendant aussi longtemps et d'avoir pris sur ton temps. Merci. Voilà. Alors, par contre, ce matin, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'articles répondent à notre grève de la faim. Et en particulier dans Sud-Ouest, il y a un article, c'est un interview de Monsieur Borloo qui persiste et signe en disant que finalement, si la clause de sauvegarde n'avait pas encore été déposée, c'était en gros parce que il y avait cohérence actuellement entre la loi qui va être votée et finalement la clause de sauvegarde et ce qui avait été promis par Monsieur Borloo et Monsieur Sarkozy. Monsieur Borloo est un menteur, je le dis et je le confirme. Monsieur Sarkozy est un menteur et Monsieur Borloo l'est également. D'abord, ça n'a rien à voir. La loi telle qu'elle va être proposée est une loi d'autorisation des OGM, ce qui est scandaleux. Et deuxièmement, c'est une loi de contamination des OGM par les OGM, c'est scandaleux. Et troisièmement, ils avaient promis cette clause de sauvegarde au peuple de France. Donc ça veut dire simplement que cette clause de sauvegarde ne sera visiblement pas déposée. Et donc ils ont menti. Il faut le dire, ce sont des menteurs.
Eh bien, cher Daniel, je suis horrifiée par ce que j'entends aujourd'hui. Mais dans quelle société sommes-nous? Mais que font les élus locaux? Personne ne bouge. Il faut que vous diffusiez ce genre d'émission que malheureusement tout le monde n'écoute pas et c'est un grand regret. Bon courage à Christophe et à sa femme. Il faut qu'ils quittent ce système, qu'ils trouvent autre chose et s'épanouir dans une vie. Il n'y a pas que casino, moi aussi j'y travaille dans cette société. Heureusement, je suis en retraite dans 2 mois et je suis très heureuse de quitter ce système. Bon courage et merci pour vos émissions. Je vous embrasse et j'embrasse Christophe et sa femme à qui je dis il faut s'en aller, il faut tenter autre chose. Au revoir.
Bonjour, Franck en Ardèche. Je viens d'écouter l'émission sur les petits gérants de Superette là. Ben, c'est intéressant, moi ça m'a rappelé des bons souvenirs, c'est rigolo parce que mon père a tenu une épicerie pendant quelques années et puis il a eu du flair quand il a entendu dire qu'une deuxième grande surface allait ouvrir dans le pas très loin du quartier. Il a vite revendu, il a eu de la chance. Bon, maintenant l'épicerie forcément elle n'existe plus. Et voilà, et ça fout un peu les boules d'entendre un couple qui gagne à peine le SMIC et qui c'est encore eux qui vont faire des qui vont laisser traîner un peu les gens pour qu'ils viennent payer plus tard, faire faire crédit au SDF du quartier pendant que le PDG, lui, encaisse 5000 ans de salaire tous les ans. Ça fout vraiment les boules. Et à ce propos, j'ai fini hier au soir le bouquin d'Hervé Kempf. Je ne sais pas si c'est dans votre émission que j'en avais entendu parler, il me semble, mais je ne suis plus tout à fait sûr. « Comment les riches détruisent la planète » aux éditions Seuil. C'est une bombe ce bouquin, c'est génial, faut que tout le monde le lise, l'achète, le fasse passer, l'offre, voilà, c'est bien en rapport avec l'émission et tout est expliqué, quoi, l'oligarchie qui nous escroque de A à Z. Et le bouquin de Norman Baillargeon aussi, petit cours d'autodéfense intellectuelle, vraiment, vraiment excellent. Je conseille, bon courage à tous.
Très intéressé par votre émission sur les gérants de Superette Casino, je vous apporte le témoignage suivant. Dans les années 50, mes parents ont tenu Superette Casino pendant 3 ans. Grâce à Dieu, ils ont fait autre chose par la suite. Ma mère, qui a aujourd'hui 80 ans, au moment de constituer son dossier retraite, a eu la surprise de recevoir la note suivante des établissements Casino. Madame Petit a travaillé bénévolement au service de son mari pendant cette période. Donc, pas de retraite pour elle. Au revoir.
Mermet, c'est Adrien de la Loire. T'es toujours imparable, j'adore tes émissions. J'ai écouté avec délectation aujourd'hui concernant le problème concernant la grande distribution. Casino, je connais. La Loire, c'est la capitale du casino. Il faut croire qu'aujourd'hui, ici, ils sont quand même les maîtres, ils règnent maîtres. Mais le problème, ce n'est pas Casino, c'est Auchan, c'est Carrefour, c'est toute la grande distribution qui est le problème en général. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'enrichir la grande distribution. Les grandes fortunes, il faut boycotter, bien entendu, donc à tout la grande distrib. Moi, je me suis battu contre deux projets de casino qui devaient avoir lieu dans son bout de piste d'aéroport, avec à côté, à moins de 300 mètres de distance, une usine Seveso 2, mais ça gênait pas ni la DRIR, ni le préfet, ni les ministères d'industrie. Personne n'était gêné par ce genre de choses. Donc tu vois, c'est un racket social humain qui eux ils font, même par rapport, cessons de dire que les petits commerçants ceci ou les machins comme ça cela. Je crois que toute la société est victime de la manière comme eux ils agissent, que ce soit les producteurs, que ce soit les fabricants, etc. Donc merci, bonne continuation. C'est Adrien de la Loire. Au revoir.
Merci pour vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Merci pour les messages concernant un casino, le petit casino d'Arras. On a des nouvelles un peu difficiles que François Ruffin va préciser dans un message qui vient. Aujourd'hui, on va retrouver Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm est un des plus grands historiens vivants, contemporains, 90 ans, oui, 90 ans, il est venu nous voir pour son dernier bouquin. Enfin, c'est nous qui lui avons demandé s'il voulait bien nous faire l'honneur de venir nous voir. Et il est venu et on a eu une longue conversation, hélas trop courte, autour de son dernier bouquin, donc, qui évoque la Révolution française et la place que la France donne à la Révolution française. Alors, ça peut sembler un sujet tout à fait anachronique. Vous allez voir que ça ne l'est pas du tout. Et puis, comme toujours avec Eric Hobsbawm, la conversation se développe et se développe, c'est ça, sur des sujets de dimension universelle, tant sa culture, son érudition et sa vision du monde est à la fois grande et construite. Donc vous avez compris, c'est une heure de plaisir d'entendre Eric Hobsbawm. Et puis, avec sa façon de voir, qui est libérée par l'âge, semble-t-il, par le grand âge qui est le sien, comme si ce grand âge était un facteur de libération, on va dire. Voilà. Donc, Eric Hobsbawm aujourd'hui, aux armes historiens, et auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Là, je suis un peu essoufflé parce que je marche dans une rue. Et puis, ce message que nous a laissé François Ruffin.
Salut Daniel, salut Christophe, c'est François. Écoutez, je vous appelle parce que le gérant du petit casino d'Arras, Christophe Léger, a eu un arrêt cardiaque, enfin a eu un problème cardiaque suite au surmenage après mon passage à Arras. Et ben donc simplement je voulais le signaler à la base si j'y suis et lui dire que, enfin dire que je lui souhaitais une bonne récupération et puis bon courage à sa femme et à ses enfants. Voilà, salut Daniel, ciao.
Bonjour Daniel, c'est le Repère du Havre, ici à l'appareil qui invite ses AMG demain, mercredi 9 janvier, à 18h au bistrot 116 avenue René Coty, pour une discussion avec le syndicat Sud Santé de l'hôpital du Havre autour de la suppression annoncée de 550 emplois étalés sur 5 ans pour un effectif de 4200 agents à 80% féminin. Voilà comment ça se passe au Havre. Alors voilà la bonne année, la bonne santé promise à la population havraise. Voilà, sinon ça va chez vous. Allez, bon, vous attendons donc demain, mercredi 9. Allez, au revoir.
Bonjour à tous les auditeurs du pays de la Narbonnaise. Le prochain repère de là-bas, si j'y suis, se déroulera jeudi 10 janvier à partir de 19h au Café des Potes, 5 rue Baudin à Narbonne. Nous y aborderons notamment la question des centres de rétention administratifs. On espère vous y retrouver nombreux et on vous souhaite une très bonne année de la part de toute l'équipe de la Maison des Potes. À bientôt.
C'était 40 ans, j'en ai la nausée. Les droits de l'homme sont à fouet.
Vous n'avez pas le droit de refuser la parole. Vous n'avez pas le droit.
Je défends la Révolution française pour le tout. Elle a inventé le plus puissant slogan pour nous tous. Oui. Égalité, liberté, fraternité.
La Convention nationale t'accuse.
La liberté, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est le droit de
la révolution, c'est l'humanité.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec Eric Hobsbawm, aux armes, historien, 2 siècles d'histoire de la Révolution française. Eric Hobsbawm, je suis très très content de vous retrouver, parce qu'on s'était vu au moment de la publication de L'âge des extrêmes, et qui a eu un succès considérable, hein, et mérité 37 langues, un livre traduit en 37 langues.
Oui. Ça continue. Il se prépare une tradition en langue vietnamite.
Ah !
Oui. Et encore une seconde édition en arabe.
Oui. Formidable. Donc ça, c'était sur le XXe siècle. Vous êtes aussi un excellent spécialiste, je suppose que le mot vous agace de dire spécialiste, mais enfin un bon observateur aussi du XIXe siècle. Et là, ce qui nous donne, Eric Hobsbawm, ce qui nous donne l'occasion de nous retrouver, c'est un bouquin donc, qui sort aux éditions de La Découverte, que vous avez intitulé « Aux armes, historien », et qui retrace 2 siècles d'histoire de la Révolution française. Alors qu'on le verra, vous n'êtes pas un spécialiste de la Révolution française, mais à travers votre travail, vous avez mesuré les conséquences, on peut dire, au 19e et au 20e siècle, ce que vous venez de faire d'ailleurs, de la Révolution française. Et il s'agit de trois conférences que vous aviez préparées, que vous avez données au moment du bicentenaire de la Révolution. Au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et alors, pour les gens de ma génération, mon enfance, c'était dans les années 50. L'idée qu'on avait de la Révolution française, c'est que c'était un événement tragique, mais un événement positif. C'est-à-dire que c'était une révolution bourgeoise, mais que tout ce que nous étions, nous le devions à cette révolution. Ça, c'était un premier aspect. Puis il y en avait un second, pour ceux qui étaient dans un courant progressiste, c'était de dire, bon, voilà, les bourgeois ont pris le pouvoir par rapport aux aristocrates, et bien nous, maintenant, le peuple va prendre le pouvoir par rapport à la bourgeoisie. Ça, c'était une vision qu'on avait dans les années 50-60. Oui, et puis arrivent les années 70, et là, on va avoir une autre lecture de cette Révolution française, qui va être de dire, si on pouvait s'en passer, ce serait pas plus mal. On va commencer à dire, c'est la Révolution, ça mène au goulag. Il y a un chemin qui va tout droit de la Révolution française en l'occurrence, au goulag. Et ce sera, je résume et je caricature outrageusement, un peu le parcours de ceux que vous considérez comme des révisionnistes, dont François Furet, l'éminent historien et votre éminent confrère François Furet, qui sera le penseur du bicentenaire de 1989. Et on se souvient comment ce bicentenaire, qui avait été confié à un décorateur des Galeries Lafayette, qui s'appelle Monsieur Goud, avait fait de cette commémoration quelque chose d'assez édulcoré, de folklorisé, et qui était comme qui nous disait que c'était une page qu'il fallait que nous avions à tourner. Et c'est ça qui vous a agacé.
Oui, c'est ça. En effet.
On peut dire que c'est ça qui vous a agacé.
On ne peut pas se passer de la Révolution française, on ne peut pas se passer des grands événements d'une histoire nationale, même si on ne les aime pas. On ne peut pas se passer, par exemple, de la Révolution anglaise, de Cromwell. Elle est liée, toujours, dans un certain sens. Et la Révolution de 1688. il me semble que le débat, discuter la Révolution française, est une chose, mais ça ne doit pas se faire en des termes de politique actuelle. Mmh. Et c'est ça qui s'est fait. Même Fury, qui après tout a été très intelligent, hein, n'a pas cru que la Révolution française ne comptait pour rien dans l'histoire de France. Hein, mais pour des raisons politiques.
Du moment.
Politique du moment. Il a voulu la marginaliser. Hein. Et à mon avis, c'est là la raison de toutes ces erreurs du bicentenaire. Avec la Révolution française, c'est la même chose qu'il faut éviter qu'avec les Lumières. C'est-à-dire, il faut les discuter dans leur contexte historique et pas dans le contexte actuel de la politique. L'idée, par exemple, qui est analogue à celle qu'on avait proposée à la Révolution française, que tout le totalitarisme vient d'un excès de la pensée des Lumières. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout.
On ne juge pas un événement à ce que l'histoire en fera par la suite.
Il faut bien le juger, mais dans ce cas-là, on ne juge pas l'événement, on juge la période, l'actualité. Mm-hmm. Voilà, c'est ici la faiblesse de cette grande mode pour la mémoire. La mémoire historique s'occupe de nous, ça ne s'occupe pas du passé.
Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est pas toujours un peu ça? Vous savez bien que on utilise toujours l'histoire, votre science, au fin du présent, pour nourrir le présent avec le regard du présent.
Oui, c'est absolument vrai. Enfin, les bons historiens sont tous engagés. Ils ont des idées là-dessus. Moi-même, je suis un historien engagé assez, mais tout de même, il ne faut pas faire la confusion entre la polémique politique, la polémique idéologique et l'analyse historique. Mmh. Et pour n'importe quelle analyse historique, la Révolution française reste d'abord absolument centrale pour l'histoire de la France depuis, au moins jusqu'à la seconde après-guerre, et pour le monde entier. Impossible de comprendre quoi que ce soit sur le 19e siècle sans la Révolution française.
Au nom du peuple français, le 12 décembre 1988, l'inoubliable Yves Mourouzi animait sur TF1 une émission où la question était posée aux téléspectateurs de savoir si, oui ou non, il fallait guillotiner Louis XVI. La réponse fut non, on ne le guillotinera pas. C'était là le triomphe, provisoire bien sûr, de la pensée conservatrice néolibérale des années 80, qui voulait rompre avec l'héritage révolutionnaire de 1789. Dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, François Furet écrivait « La Révolution n'a plus grand-chose à gagner à être investie par les passions politiques ». Or, Eric Hobsbawm, notre ami, invité aujourd'hui, éminent historien britannique à 90 ans, publie aux éditions La Découverte « Aux armes, historiens, deux siècles d'histoire de la Révolution française », qui sont deux siècles d'histoire, de l'histoire de la Révolution française, et qui considèrent que ceux qui pensaient ainsi dans ces années 80 étaient des révisionnistes. Eric Hobsbawm. Alors, il y a des écoles quand même qui s'affrontent hein, dans toute cette lignée d'historiens dans laquelle vous vous inscrivez. On a quand même de la Révolution française des lectures opposées, des lectures différentes.
Pendant beaucoup, bien de temps, il n'y a eu pas de grandes de grandes polémiques, de grands débats là-dessus. D'ailleurs, au début, évidemment, on l'a reconnu comme un phénomène global, un phénomène énorme. Ensuite, tout de même, l'idée de la Révolution française comme révolution bourgeoise vient des historiens libéraux et libéraux modérés de la Restauration. Oui. Benjamin Constant et tout le reste, Thierry, Thiers, tout le reste. Ils étaient d'accord là-dessus. Et c'est après que Marx et les autres, ça leur arrangeait à très bien, mais enfin, ce n'était pas leur invention. D'ailleurs, Marx s'est très peu occupé de l'histoire de la Révolution française. Eh bien, après, il existe, pour ainsi dire, cette orthodoxie, la Révolution française comme le modèle de la modernisation des États bourgeois, oui, qui existe un peu partout. On accepte ce modèle.
Y compris la terreur.
Au début, on accepte. Et c'est là une différence entre, pour ainsi dire, les néolibéraux de la Restauration et les néolibéraux de l'époque furée.
Des années 80, des années 70.
Des 80. Vous savez, par exemple, Guizot. Guizot, après 48, est allé bien à droite, comme tout le monde. Mais avant, il disait, parce que tous les gens disaient, on ne peut pas éliminer la terreur, parce que ça a été un élément constitutif, même dans la France bourgeoise, la France modérée.
Guizot était, vous le classez quoi, parmi les conservateurs ?
Non, c'était un libéral dans le sens économique, mais aussi dans le sens...
Des idées.
Au sens politique aussi, un libéral très modéré. Pour les libéraux, la grande idée, c'était la révolution bourgeoise aurait dû s'arrêter en 91, oui. Mmh. Oui, c'est bien. Et d'ailleurs, même, je me rappelle, il y a tant d'années, quand j'ai écouté une série de conférences sur la Révolution française en Angleterre par le grand Ernest Labrousse, qui lui-même le disait, enfin, le acquis permanent de la Révolution française, c'était précisément ce qui s'était établi entre 89 et 91, oui. Mais, voilà, sans ce qui est devenu après 92, ça ne se serait pas établi en permanence.
Finalement, il faut attendre Furet pour qu'on cherche à en faire un objet dépassé, périmé.
Périmé, oui.
Il faut absolument attendre ce moment-là. Jusque-là,
il reste
quelque chose de une rupture fondatrice.
Une rupture fondatrice, une rupture discutable, évidemment. Mais tout de même, on était d'accord que c'était fondamental pour l'histoire moderne. Et c'est précisément la nouveauté des années 70, 80, et qu'ils ont tout à fait jeté à la poubelle.
Les Français eux-mêmes, en plus.
Oui, les Français eux-mêmes, mais pas les autres.
C'est ça.
Les autres ont réinterprété, mais ce n'était pas un rejet.
Dans votre livre, là, Eric Hobsbawm, au début, vous citez une phrase de Michel Rocard, qui date de 1988, dans Le Monde. Michel Rocard disait, 88 ça veut dire juste au moment des préparatifs du bicentenaire, il disait, la révolution c'est dangereux, si on en fait l'économie, c'est pas plus mal. Ça résume quand même, c'est une petite phrase qu'il a dû jeter comme ça en l'air, mais enfin, ça dit assez bien cette époque, c'est dangereux, c'est dangereux.
Oui, parce que la révolution, franchement, n'était pas sur le programme, nulle part dans les pays développés d'un capitalisme libéral constitutionnel démocrate. Donc, enfin, les dangers à la société viennent d'autres que les héritiers de Babeuf. Hein? Mm-hmm. C'est ça. Mais enfin, ce que Rocard disait en général, en principe, est assez bien. On préfère faire sans révolution. Mais tout de même, dans les circonstances, c'était une proposition politique.
Intéressant de revenir sur ces années 80 et notamment sur le bicentenaire de la Révolution française en 1989, souvenez-vous, où l'on fit de cet anniversaire une aimable fête de patronage à l'échelle nationale, mais qui cherchait à rompre avec cet héritage. Pourtant, auparavant, les premiers bénéficiaires de 1789, c'est-à-dire les bourgeois, même farouchement réactionnaires, comme Guizot, dont Eric Hobsbawm vient de parler, ont longtemps estimé au contraire que la Révolution, et je cite Guizot, « entreprise dans le dessein du bien général a été la lutte terrible mais légitime du droit contre les privilèges, de la liberté légale contre l'arbitraire ». Cette fête de 1989, ces commémorations de 1989, nous les avons évoquées, souvenez-vous, subtils auditeurs, le 9 avril dernier, en compagnie de François Cusset et de Serge Halimi, lors d'une série d'émissions mémorables, La décennie, le cauchemar des années 80.
La soirée du 14 juillet sur Antenne 2, ça démarre dès 20h30 avec une grande soirée de variété. Charles Aznavour, Véronique Sanson, Bernard Lavillier, Elsa, Enrico Macias, Tana Mouskouri, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Coluche, Robert Hossein, la compagnie créole et Mireille Mathieu qui interprète la Marseillaise sous l'Arc de Triomphe. À 21h30, c'est le super show du bicentenaire par Jean-Paul Goude. Le 14 juillet sur Antenne 2, un spectacle comme vous n'en verrez pas avant 200 ans. Antenne 2, toute la passion du spectacle.
À deux, passion.
Ça fait envie quand même. 14 juillet 1989, un grand moment de la commémoration de l'histoire, de la mémoire, de la culture. François Cusset, vous étiez heureux ce jour-là.
C'est le devenir publicitaire de la Révolution qui est terminé. Hein. N'oublions pas que la Révolution française est terminée. C'est le slogan de l'année 89. C'est le titre célèbre de François Furet, historien officiel de ce bicentenaire. Donc effectivement, on est en plein délire publicitaire. Il s'agit de relire la Révolution française non plus à la lumière des phénomènes sociaux qui suivront du 19e siècle social ou même de la Révolution russe, mais à la lumière d'une révolution qui a eu lieu quelques années avant, qui est 1776, la révolution américaine. C'est-à-dire de faire de 1789 une révolution purement politique et pas du tout sociale, et surtout un événement dangereux, parce que portant en germe, par nécessité, la dérive de la terreur, de la guillotine, et des années sanglantes de la révolution. Alors évidemment, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas ça. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la version publicitaire de la chose, avec Jean-Paul Goude, publicitaire chéri des Français, proposant effectivement ce défilé incroyable où on a tous les symboles et les clichés de l'histoire de France qui défilent, et où on a, je crois, Jesse Norman qui chante la Marseillaise sur un char des Champs-Élysées. On est effectivement en train de...
Un ours qui est censé représenter la Russie, parce qu'on fait dans le symbole relativement simple.
Ça,
oui,
ça,
oui, ça a été un très grand moment que ce bicentenaire. Et je crois que quand on parle de la Révolution française, ce qui est intéressant dans cette année-là, c'est que ce qu'on célèbre, c'est surtout les contre-révolutionnaires. C'est avant tout la célébration des Chouans, des Vendéens, c'est la publication d'ouvrages qui insistent sur le coût de la Révolution française. Il y a un livre, je crois, de Cédillot qui s'appelle « Le coût de la Révolution française » et dont le seul objectif, c'est de montrer qu'on aurait mieux fait de s'en dispenser. Et c'est les spectacles de Robert Hossein qui font apparaître la Révolution comme uniquement un bain de sang. Donc c'est une célébration assez paradoxale à bien des égards.
Oui, enfin, c'est de nous dire la Révolution conduit au bain de sang, tout engagement conduit à la Révolution. Ne vous engagez pas, acceptez l'ordre établi une bonne fois pour toutes, c'est ce que vous devez comprendre, mettez-vous bien ça dans la tête.
Pour reprendre une fois de plus notre ami François Furet, nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons.
Danton, la Convention nationale t'accuse.
Danton. La liberté, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est les droits de l'homme.
révolution, c'est l'humanité, la justice et la vertu.
Assez de messe. Nous avons le droit de m'assassiner. Vous voulez assassiner.
Je guillotine encore tous les jours. C'était 40. J'en ai la nausée.
Les droits de l'homme sont bafoués.
Vous n'avez pas le droit de leur refuser la parole. Vous n'avez pas le droit.
Que lorsqu'il s'agit de la condition des hommes et de leurs problèmes, que celui de la justice, celui de la dignité, celui de la liberté, celui des rapports de leurs conditions de vie, je trouve que c'est la moindre des choses qu'ils puissent s'exprimer, participer et être partie prenante, surtout dans un spectacle qui se passe complètement dans la salle et complètement sur scène à la fois.
Je déclare que je n'ai rien à me reprocher.
Lamento del cornudo, la lamentation des cocus, c'est ainsi que Borghese qualifie le tango. Et on pourrait dire la même chose de ces repentis des années 80 qui effectivement voulaient faire croire à tout le monde que nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Je reprends la phrase de François Furet qui fait un très très beau pendant à la phrase fameuse de Margaret Thatcher, There is no alternative. Il n'y a pas que Margaret Thatcher en Angleterre, il y a aussi des gens comme Eric Hobsbawm, notre ami historien qui publie Aux armes, historiens, deux siècles d'histoire de la Révolution française aux éditions La Découverte.
Les collaborateurs de Mme Thatcher s'en tirent par une plaisanterie. Il paraît qu'ils appellent entre eux leur patronne Tina. Ce sont les initiales de sa phrase préférée, There's no alternative, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution.
Mais tout ça se passait en 1989, il y a presque 20 ans. Que sont devenues les idées révisionnistes de l'époque?
La seule forme de révisionnisme qui a été totalement éliminée depuis le bicentenaire, c'est celui de Furet, qui voulait nier l'élément social, que c'était un phénomène social important et que vous le niez, l'importance dans l'histoire de la France, de la Révolution française. Ça c'est mort depuis, oui. C'est évident.
Et pourtant, Furet, dans sa jeunesse, avait été au Parti communiste français. Il avait parti du PSU, il collaborait au Nouvel Observateur. C'était un homme de gauche.
Oui, c'est un homme de gauche qui est devenu un libéral du type Benjamin Constant, etc. Quelqu'un du centre. Mais, au contraire, enfin, en France surtout, une grande partie des jeunes historiens très capables qui étaient au Parti communiste au début pensaient que 25% des étudiants à l'école normal de Rudel, après-guerre, était inscrite
Au
Parti communiste. Oui. Alors donc, il y a pas mal de gens qui, enfin, après les 30 glorieuses, je veux dire les 30 glorieuses du marxisme comme idéologie dominante, hégémonique parmi les intellects français, ont révisé leurs idées.
Nombreux, oui, ils étaient nombreux.
Assez nombreux.
Assez nombreux.
Et il était absolument sûr que ce n'est pas un phénomène purement français, que le marxisme comme matrice de ces types d'analyses a un peu dégringolé dans les années 70.
Mais pourtant, je suis sûr que si on faisait un sondage où parmi les jeunes Français aujourd'hui sur la Révolution française, il y a ceux qui répondraient que ça ne leur dit pas grand-chose, et puis ceux qui répondraient que la Révolution, c'est pas bien, ils diraient un petit peu la phrase de Rocard, c'est dangereux, c'est-à-dire que c'est violent, et qu'il faut que c'est la terreur, que la Révolution égale la terreur, et que ça mène forcément au pire, et au totalitarisme. Je pense que c'est intuitif ce que je dis là. J'ai l'impression que c'est ça qui est aujourd'hui dans l'esprit des jeunes générations. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, on n'a pas l'appareil pour jouer ça.
Oui, vous avez peut-être raison, mais je ne sais pas. Parce qu'il y a, surtout parmi les gens d'un certain âge, n'est-ce pas, il n'y a pas simplement la politique et l'idéologie actuelle d'aujourd'hui, mais la force subsiste de l'idéologie d'hier, c'est-à-dire l'idéologie de la guerre froide. Et, par exemple, tout le débat sur le totalitarisme est un débat qui remonte à la guerre froide. Autrement, ça n'aurait jamais eu une importance, une telle importance. C'est, à mon avis, c'est plutôt ridicule. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, jeter à la poubelle l'étude des classiques parce qu'on déteste l'esclavage. Oui ? L'antiquité grecque et romaine reste un sujet absolument central pour le développement du monde moderne, avec ses côtés positifs et négatifs, mais tout de même. Alors donc, de dire « parce que je déteste l'esclavage, je ne m'occupe plus de ça », ça n'a pas de sens.
Bien sûr. Hein? Bien sûr.
Et à mon avis, la Révolution française est un de ces épisodes, ces événements globaux, hein, comme d'ailleurs la Réformation et d'autres, qui continuent à attirer qui génèrent les problèmes, et des problèmes pour chaque génération, des nouveaux problèmes.
La succession d'événements la plus terrible et capitale de toute l'histoire est le point de départ pour l'histoire du 19e siècle. Ainsi, l'historien britannique, collègue d'Eric Hobsbawm, Holland Rose, qualifie la Révolution française. Et Hobsbawm finit sa préface et sa présentation de ce texte aux armes, historien, avec cette phrase d'Hippolyte Taine: que peut un sermon contre ou pour un tremblement de terre? The revolution will not be televised. The revolution will not be televised. 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 Eric Hobsbawm, votre compatriote Margaret Thatcher nous avait dit: il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Est-ce que vous pensez effectivement comme elle?
Si, il y a des alternatives.
Quelles sont-elles aujourd'hui?
L'alternative à une globalisation purement dans les termes néolibéraux capitalistes. La globalisation continue, ça continue depuis des siècles. Mais ce qui n'est pas nécessaire, c'est l'établissement d'un marché absolument libre. Et au contraire, actuellement, dans les années 90, et surtout à l'après, on est arrivé au point où les résultats de ce type de globalisation se sont révélés, enfin, assez curieuses. Il y a eu, d'abord, il y a eu une instabilité dans le monde économique énorme. Une instabilité que nous, dans les pays développés, ont jusqu'ici évité. Mais imaginez-vous, par exemple, que en Argentine, hein, dans 6 mois, la moitié de la population est tombée dans la misère. En Corée du Sud, quelques années avant, dans 6 mois, le marché pour l'automobile a baissé de 40%. Ce type de catastrophe économique, oui, est quelque chose qu'on ignorait dans l'époque avant le triomphe du néolibéralisme genre Washington, oui, de l'IMF. Donc il y a une alternative. Et même, il y a un certain sens, une alternative s'impose. Menée, par exemple, n'est-ce pas, aux Indes, qui font, enfin, s'avancent tous azimuts, hein, dans une grande croissance économique. Mais voilà, la moitié, plus que la moitié, reste dans la misère. Il faut faire quelque chose.
Ce que vous dites, on peut le dire de la Chine aussi.
La Chine, il y a des problèmes, mais tout de même, l'industrialisation, qui est d'ailleurs sous un contrôle un peu de l'État, là, la Chine a eu mieux que l'Inde, parce que l'industrialisation de la Chine a généré du travail. Et donc, enfin, il y a des centaines de millions de gens qui sont émigrés du pays, de l'arrière-pays, qui sont arrivés avec toute l'exploitation. Enfin, la misère a diminué nettement en Espagne, bien que l'inégalité s'est accrue.
C'est ça.
Peut-être plus que notre, mais l'accroissement de l'inégalité sociale et économique est aussi une fonction de cette globalisation. Il y a des alternatives. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire.
Il faut des alternatives.
Il faut des alternatives, mais plus que ça, il y a des possibilités théoriques et pratiques s'il y a les conditions politiques pour les réaliser, ça c'est une autre affaire.
Je notais, Eric Hobsbawm, dans votre biographie que vous êtes inscrit au Parti communiste anglais, britannique,
j'étais.
En 1936.
36, oui.
C'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
36. Vous aviez 20 ans? À peine 20 ans.
Oui. Moins.
19 ans, 19. Vous aviez 19 ans. Oui. Oui. Je pense que c'était un geste révolutionnaire que de s'inscrire.
Oui, absolument.
Ouais, c'est ça. Vous êtes toujours révolutionnaire?
À 90 ans, c'est plus difficile de rester révolutionnaire. Je crois que, enfin, il y a toujours la nécessité d'une révolution dans certains pays. Par exemple, le Moyen-Orient, dans une partie de l'Afrique, etc. Je ne suis plus révolutionnaire intuitif, qui préfère, pour ainsi dire, les activités directes, les barricades, oui, qui a le goût spontané des barricades.
Ça vous a passé avec le temps?
Non, ça s'est passé, à mon avis, après 68, quand j'ai vu qu'une partie de jeunes s'était formé des petits partis, de petits groupes, oui, soi-disant révolutionnaires, mais vraiment révolutionnaires, oui, qui agissaient par la terreur, par tout, à base d'une théorie qu'ils croyaient bonne, et qui était, à mon avis, contre-productif.
Vous parlez d'actions directes, des...
D'actions directes, je parle des...
Fraction armée rouge en Allemagne,
des fractions d'armée rouge, des brigades rouges.
En Italie.
Et même, enfin, un peu avant, de cette espèce de volontarisme quasi-léniniste que de certains disciples de Fidel Castro, Guevara, par exemple. Mais au contraire, enfin, je suis pas contre les actions. Par exemple, je croyais toujours que les gens comme Guevara, etc., méconnaissaient la réalité. Il y a des circonstances où les paysans étaient prêts à prendre et à donner l'appui aux guérillas. Mais eux, ils savaient pas, parce qu'ils croyaient à imposer d'en dehors ça. Alors donc, le FARC en Colombie, par exemple, je continue à avoir un certain faible pour ça, bien que...
Vous avez un faible pour les FARC?
Pour les FARC, oui, parce que ça...
Ça va nous coûter cher, ça. On est
non, c'est bien, malheureusement, ils se sont... Et maintenant, il reste très peu de l'aspect révolutionnaire des FARC. Mais tout de même, pendant 30 ans, ça a été un moment important. À un certain moment, les FARC ont cherché à à devenir civils, à former un parti. Hein?
La UP.
Oui, exactement.
L'Union Patriotique en 1982.
L'Union Patriotique. tout d'un coup, tout le monde, oui, tout le monde a zigouillé, tous les UP.
Oui, 3 000 à 4 000.
Les maires, les députés.
Les élus.
Alors donc, dans ces circonstances, ils avaient très peu d'alternatives que de continuer la lutte. Que malheureusement, depuis, grâce à la globalisation du commerce de drogue et autres choses, ils ont changé un peu le caractère. Ça, c'est une autre affaire.
Oui, mais je voudrais qu'on reste sur Che Guevara quand même, parce que c'est quand même un personnage extrêmement populaire chez nous. Et là, c'est quelqu'un que vous avez observé, c'est un héros du XXe siècle, et vous êtes un formidable observateur du XXe siècle. Je voudrais que vous nous en parliez un peu plus. Vous êtes en train de nous dire, oui, ils avaient une telle vision à eux de ce que devait être les changements, la révolution, qu'ils ne se rendaient pas compte que les paysans, par exemple Bolivie, étaient prêts eux, mais il n'y avait pas de concordance, c'est ça que vous nous dites.
C'est exactement ça, ce que je veux dire. Il a essayé de faire l'importation de la révolution dans une situation que lui croyait révolutionnaire, mais qui n'était pas dans les termes de la population actuelle. Voyons, par exemple, actuellement en Bolivie, on voit un mouvement vraiment qui a des racines dans les indigènes de la partie. Et d'ailleurs, indigène, c'est très curieux parce que une grande partie de ceux-là sont bilingues. Ils parlent l'espagnol aussi. Mais voilà, ça, c'est un mouvement qui n'a rien du tout. Che Guevara est devenu un symbole global, et je m'en réjouis. Mais tout de même, il a écrit, à mon avis, un petit livre utile sur la guérilla, qu'il a négligé lui-même, puisqu'il était nettement trop âgé pour continuer comme ça. Mais pour le reste, il n'a jamais dit des choses très importantes.
On a un président de la République qui aime citer des gens importants et pas toujours ceux qu'on attendrait. Et il a cité récemment Gramsci. Et il se trouve que vous citez Gramsci à la fin de votre livre. Gramsci, en quelques pages, revient sur une histoire de la Révolution française où il explique que le passage des Jacobins, le passage de 92-93, était un passage où la Révolution s'est accélérée parce que, je le cite, les Jacobins ont fait avancer la bourgeoisie à coups de pied au cul, mais que les conditions objectives n'étaient pas réunies pour que ces acquis-là restent. Et c'est ce que vous mettez à la fin de votre livre. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les conditions objectives pour une transformation sociale de ce type-là pourront être réunies? Est-ce que c'est pas acte de pessimisme que de mettre ce texte de Gramsci en fin de livre?
Voyons, heureusement, nous les historiens ne sommes pas des prophètes. C'est pas notre spécialisme. On laisse ça au bureau de prévision des grandes maisons commerciales. Et donc, ma réponse est je ne sais pas. Je l'espère, je ne le sais pas. Pour le moment, je suis plutôt sceptique. Mais voilà, l'histoire ne se termine jamais. Je crois, par exemple, que le mode d'actuation politique du dernier siècle, du 19e, est en grande partie périmé. Les partis de masse, même les partis d'avant-garde, hein, les partis centralisés, ça ne fonctionne plus comme avant. Il faudra trouver d'autres façons de mobiliser les pauvres. Le danger que ça ne sera pas nous qui, les héritiers des Lumières, de la tradition du progrès de la révolution américaine jusqu'à, y compris la révolution russe et même chinoise, qui vont être l'inspiration pour ces nouveaux développements, mais d'autres. Mais il y a tout de même une différence entre ceux qui sont les gens qui ont perdu les illusions, mais qui restent tout de même à gauche, qui croient tout de même qu'il est impossible, qu'il est possible, qu'il est nécessaire qu'on s'occupe de la libération du genre humain.
Ouais. Et ça, vous en faites partie.
Hein?
Ça, vous en faites toujours partie de ce monde-là.
Oui, naturellement. Voilà. Et voilà une des raisons pour laquelle je défends la Révolution française, parce que tout, elle a inventé le plus puissant slogan pour nous tous. Oui, égalité, liberté, fraternité. Oui. Qui continue à rester valable.
Hein? Mais c'est pas dans cet ordre-là. Vous avez mis l'égalité devant. Vous venez de mettre l'égalité devant. Là, vous vous êtes trahi.
Oui.
Ah oui.
L'égalité. L'égalité est centrale, à mon avis.
L'égalité, c'est oui. Mais dans les trois mots, c'est le mot liberté qui vient d'abord. On a mis liberté, égalité fraternité. Et liberté, ça veut dire aussi libéralisme, ça veut dire liberté du commerce, liberté la liberté du renard libre dans le poulailler libre.
Oui, bien sûr. Oui. Mais vous ça avez... veut dire, mais enfin, il y a la liberté est multiforme. Mais dans la combinaison liberté, égalité, fraternité, elle perd une partie de sa multiformité. La libération des peuples, les mouvements de libération populaire qui ont été inspirés en grande partie. Après tout, je le cite dans mon livre, même actuellement, la majorité des États dans le monde a le drapeau inspiré par la tricolore. Ouais. Il y a quelque chose, même la Russie post-communiste a choisi le classique drapeau tricolore.
Toujours point de vue original d'Eric Hobsbawm, qui nous rappelle ainsi l'âge des extrêmes. Vous vous souvenez de ce livre que tout bon citoyen doit avoir lu et avoir à portée de la main. Le livre dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est « Aux armes, historiens, deux siècles d'histoire de la Révolution française » aux éditions de La Découverte. Très, très peu de critiques de ce livre dans la presse à ma connaissance, mais tout de même, dans l'excellent Plan B, le Plan B, eh bien, le numéro consacré aux médias qui mentent et qui est actuellement en kiosque, il y a un excellent papier autour du livre d'Eric Hobsbawm. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org.
Et vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Je répète, 01 56 40 37 37. À la technique, aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Michel Bessiquion. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyen Guyenne, montée par Renaud Lambert et préparée par Charlotte Perry. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the point from 29 districts. The revolution will not be televised.
The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
C'était Gilles Scott-Aaron, The Revolution Will Not Be Televised. Publicité.